Bonjour à tous. Je vais vous présenter en fait donc ce projet singularisé. Donc on n'a pas d'acronyme, on a choisi un titre assez long avec un sous-titre. Singulariser les territoires de montagne, approche critique des processus de labellisation dans les constructions territoriales. Alors je vais essayer d'expliciter un petit peu tout ça. Vous voyez une liste de mots-clés déjà qui vous donne une petite idée du contenu. Mais déjà les équipes de recherche engagées, vous verrez tout à l'heure une liste assez longue d'une quinzaine de chercheurs de 4 laboratoires différents, donc laboratoires impliqués dans le LabEx, et une équipe qui s'est constituée en fait au fil du temps, un petit peu même au-delà de 2013, l'organisation précédente du LabEx, où nous avions mis en place un collectif de recherche-action avec les territoires espaces protégés, et donc avec lesquels nous avions commencé d'engager une réflexion sur le devenir de ces territoires-là. Le projet dont je vais vous parler est aussi finalement dans la continuité de cette question-là. Nous avons, vous le voyez, un certain nombre de partenaires dans cette affaire qui sont donc une implication de la recherche dans des terrains, hein, très concrètement, qui sont au nombre de 5 dans un premier cercle restreint, on va dire. Donc territoire du Morvan, PNR du Massif des Bauges. Pour l'Ardèche, en fait, il s'agit à la fois du PNR des Monts d'Ardèche et de l'Ardèche du Sud. Site palafitique, alors je vous expliquerai peut-être ce que c'est. Et puis donc les territoires écrins vanoises engagés dans le programme Alpage Sentinelle. Donc vous le voyez, des territoires assez hétérogènes, en tout cas dans les représentations montagnes qu'on peut en avoir, mais qui sont aussi des territoires assez hétérogènes du point de vue des labels qu'ils ont adoptés. Je vais y revenir. Donc c'est un potentiel au total assez riche qu'on va pouvoir mobiliser avec 3 questions, 3 niveaux de questionnement. Un premier niveau qui concerne donc, je prends mes lunettes, le contenu qu'on peut attribuer à la singularité de ces territoires en éclairant ça du point de vue des processus de distinction qu'ils mettent en place à travers les labels, à travers les labellisations. Deuxième type de question, c'est d'interroger cette quête de distinction du point de vue des contenus, du point de vue des contenus en tension, en ayant conscience que il concerne des attributs qui peuvent mobiliser aussi bien des éléments de tradition, des éléments anciens, et puis des éléments nouveaux. La labellisation, c'est quelque chose d'assez compliqué entre patrimonialisation et d'autres choses. Cette dimension patrimoniale, on va essayer quand même de la mettre en question. Et puis tout ça permettra, on l'espère, d'éclairer ce que peuvent être ces spécificités montagne qui ont été définies bien avant qu'on s'intéresse au label, dans leur contenu à la fois scientifique, ici sur Grenoble, beaucoup écrit sur ces territoires, mais aussi dans leur contenu institutionnel, hein, du point de vue notamment du cadre de la loi. Référer en fait ces processus de labellisation à ces contenus de spécificité montagne institués, ça peut être assez intéressant de voir en regard donc ce qu'il en sera de ces territoires de montagne. Pour ça, donc une organisation de la recherche qu'on a structurée de 2 points de vue. À partir donc d'articulations a priori, mais qui vont peut-être pas d'ailleurs tenir jusqu'au bout. Il y aura sans doute d'autres manières de comparer ces terrains. On s'était dit sur la base des terrains donc que j'ai évoqués, qu'il y avait quand même une originalité à les coupler par rapport à l'affichage des labels eux-mêmes, hein, avec des affichages plutôt archéocentrés pour certains d'entre eux, ouais, c'est-à-dire centrés sur des objets archéologiques, pour le dire autrement, plutôt géocentrés au sens des géopatrimoines, pour les géoparcs notamment, et puis éco-centré, bon, la formule est peut-être un petit peu trop englobante, mais du point de vue en tout cas des contenus hétérogènes mobilisés dans ces territoires dits protégés. Alors, bon, c'est des entrées un petit peu de forme, mais elles peuvent être intéressantes parfois, je vais y revenir, mais elles seront certainement pas les seules pour activer la comparaison. Alors, l'autre modalité d'organisation de la recherche, c'est du point de vue d'axe, qui devrait nous permettre d'être vraiment dans un travail d'équipe, c'est-à-dire d'avoir à la fois le bénéfice de terrains que les équipes vont travailler en propre, pour certaines, des terrains qui seront investis parfois par plusieurs équipes, mais d'avoir aussi des questionnements qu'on puisse partager, d'être un peu au-delà d'un format d'équipes qui juxtaposeraient finalement leurs observations sur des terrains plus ou moins différents. Donc le premier axe, je vais vous présenter ces quatre axes assez brièvement, en essayant d'illustrer là où on en est, sachant qu'on est encore au début, bien sûr, mais qu'on a engagé déjà à travers des séminaires, je crois qu'on est à la quatrième rencontre, on a une prochaine rencontre, la cinquième, là, qui va se faire la semaine prochaine dans le Morvan, donc avec les acteurs avec lesquels on engage un partenariat, qui devrait même déboucher sur une convention si tout va bien. Et au-delà de ces séminaires sont importants parce qu'ils sont l'occasion d'échanger concrètement sur nos travaux, enfin passés et en cours, d'échanger sur nos lectures, donc de se donner des représentations construites ensemble, vraiment sur le fond quoi, de ce qu'on met en chantier. Au-delà de ces séminaires, nous avons aussi, donc bien sûr, engagé les terrains. Donc je vous présenterai quelques éléments déjà d'enquête en cours. L'essentiel est encore devant nous, mais les choses ont démarré. Alors, le premier axe, panorama des labellisations territoriales. Bon, c'est un axe disons, de cadrage de ce qu'on va mettre dans ces processus de labellisation. Qu'est-ce que le label recouvre? Qu'est-ce qui fait label du point de vue des enjeux de territoire? Donc ce premier axe, il doit nous permettre de comprendre les significations et les enjeux transversaux qu'on peut lire donc dans cette rhétorique des processus de labellisation. Donc pour ça, on aura évidemment recours à l'analyse bibliographique, se représenter ce qu'est le champ lexical mobilisé dans un cadre bibliographique qui s'annonce large, qui s'annonce varié par ses entrées, et qu'il faut aussi, dans lequel il faut aussi pouvoir se représenter ce que sera plus précisément nos choix, le cadre d'observation, le type de label qu'on va retenir. Alors là je vous propose une première représentation qui est vraiment le tout début de la réflexion, hein, c'est déjà de se doter d'une représentation où on positionne l'observation des labels dans cette espèce de triangle où on a envie finalement d'éclairer à la fois les contenus très présents dans les labels. Donc, vous avez les logos en haut. Donc, le contenu de conservation, le contenu de patrimoine de sauvegarde, de choses qui réfèrent à ces éléments d'espace protégé. Et puis, d'éclairer aussi le label du point de vue d'un autre volet, celui qui mobilise donc la valorisation, qui fait référence à l'univers, marchand, dans lequel les labels évoluent, hein, sont des outils de plus en plus prégnants, et de comprendre ce que peuvent être aussi les articulations entre ces aspects, donc à la fois conservatoires et de valorisation. Une autre manière de réfléchir dans cet axe que nous avons amorcé, c'est encore un document un peu en chantier, mais c'était pour vous donner une idée de ce qu'on se donne comme cadre pour spécifier les objets qu'on va élaborer. Donc voilà, je vais peut-être pas trop rentrer dans la présentation de ça, vous aurez l'occasion peut-être de le revoir par la suite parce que ça va s'enrichir encore. J'en viens à l'axe 2. Donc, qui est un axe qui est dédié, comme vous le voyez, au récit de territoire. C'est un axe où on va s'intéresser au processus de labellisation, à la fois parce qu'ils engagent des contenus symboliques, des ressources symboliques, mais aussi en tant que processus, parce qu'ils engagent ces contenus avec une forme de mise en intrigue. Alors là, j'aurais aimé que ce soit Karine qui vous explique, parce que Bon, c'est vraiment dans elle est porteuse de cet axe-là et c'est vraiment dans le sens de ses travaux, de ce qu'elle fait, mise en intrigue au sens de construction de récits. Hein, je vais vous donner un petit exemple dans un instant, mais voilà, l'idée c'est dans cet axe-là de rechercher ce que sont les modalités d'activation de ces ressources symboliques, mais aussi les modalités de brouillage lorsque les labels se superposent, lorsque... les messages véhiculés par chacun d'eux peuvent parfois être compliqués à articuler, à rendre cohérents. Donc, y a derrière cette idée de collecte de récits de territoire. Alors, collecte de récits au sens où on envisage d'aller chercher ces éléments de récits aussi bien dans les discours des acteurs qui seront interrogés, porteurs de ces labels, impliqués dans ces labels, ou au-delà même des porteurs et des acteurs impliqués dans la manière dont ils sont reçus, de comprendre ce qui se construit comme élément de représentation qui peuvent conduire à des figures particulières que le label sent bien mobilise, mais qui peuvent s'expliciter sans doute de différentes manières, de comprendre un peu ça, et aussi d'aller chercher ces éléments de récit, y compris donc dans les documents qui ont pu être les documents à l'origine de la construction des démarches de label, hein, des dossiers de demande de labellisation en tant que tel. Alors voilà un exemple que Karine avait préparé, dont elle aurait pu vous parler peut-être davantage que moi, mais voilà, on trouve dans le préambule de la demande de labellisation du site donc de Bibracte Montbeuvray, sur lequel nous allons travailler la semaine prochaine, donc en tant que grand site de France, cette idée qu'il est possible de trouver là quelque chose qui a à voir avec ces sociétés un peu mythiques pour la culture française qui étaient les Gaulois. Bon, je n'irai pas plus loin, mais vous voyez bien ce qu'on entend par récit, ça peut figurer effectivement des contenus qui mobilisent, y compris des éléments d'histoire, de culture, d'identité, etc. J'en arrive à l'axe 3, qui est un axe particulier, un peu pivot dans notre dispositif de recherche, dans le sens où là, on va vraiment observer comment se construisent les savoirs dans ces processus de labellisation. Donc, savoir, évidemment, en lien avec les territoires. Donc, on a choisi de le faire dans un cadre un peu particulier, où ça sera particulièrement lisible. Ça ne veut pas dire qu'on se limitera à ça, mais on va le faire dans le cadre donc du programme Alpage Sentinelle, qui est un cadre donc où se croisent sous la forme de collectifs. Donc c'est Isabelle Arpin qui est porteuse de cet axe-là, collectif qu'elle qualifie d'organisation frontière, donc des collectifs hybrides, porteurs de savoirs de nature un peu différente, et donc d'essayer de comprendre par ce biais, dans ce cadre-là, des programmes Alpage Sentinelle, ce que sont les productions de savoir. Ce que sont les productions de savoir, comment ils s'hybrident, comment, je vais peut-être vous mettre la slide suivante pour que ce soit un peu plus clair. Les enquêtes ont déjà démarré, donc on commence à essayer de comprendre mieux donc les modalités d'expérimentation croisées entre différents acteurs qui parcourent ces alpages et qui contribuent donc à la qualification de ces territoires. Donc comment finalement la recherche par son implication dans des territoires particuliers participe aussi d'une certaine forme de labellisation finalement, ou en tout cas si ce n'est pas exactement, parce que là il faudra s'interroger effectivement sur ce qui pourrait faire label en l'occurrence, mais participe d'une certaine construction de spécificité territoriale. Bien, dernier axe, excusez-moi, j'espère que je déborde pas trop. Pas du tout, j'en suis du temps. Mais bon, alors je termine avec cet axe-là, qui est un axe donc qui est piloté par Mélanie Duval et Fabien Obléa, qui est un axe qui va avoir pour tâche de reprendre donc les contenus dynamiques de ces processus de labellisation du point de vue donc des jeux d'acteurs et des jeux d'institutions, de donner à ces processus de labellisation une représentation un peu claire de ce que sont les modalités qui peuvent se mettre en place pour le le pilotage de ces labels, en termes de gouvernance, en termes de participation, d'adhésion des acteurs à ça, et aussi ce qui peut bloquer, ce que sont les difficultés rencontrées, notamment quand on est en situation de labellisation un peu empilée, hein, les unes sur les autres, ou de labellisation sur des sites multiples, à volonté de mise en réseau ou de mutualisation. Donc comment ça se construit, alors que ça semble être effectivement une tendance lourde aussi dans les processus de labellisation que d'organiser tout ça à différentes échelles et de manière multisite. Donc je vais vous donner deux exemples des terrains qui vont être mobilisés pour ça. D'une part, donc, le terrain ardéchois, parce qu'il permet d'articuler donc d'une part la situation donc du géoparc récent, qui est donc une superposition du label sur le parc Mont d'Ardèche. Alors j'espère que je dis pas trop de bêtises, si Fabien n'est pas là, mais si Nathalie ou enfin d'autres personnes dans la salle peuvent peut-être compléter d'ailleurs sur ces terrains-là. Mais bon, en l'occurrence, on a quand même là avec les géoparcs, on pourrait d'ailleurs faire la comparaison avec les Bauges, une superposition qui semble bien engagée, que les acteurs revendiquent, de deux labels, donc PNR et Géoparc, voire peut-être une superposition qui pourrait déboucher sur finalement une fusion. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu des choses qui sont en train de se dessiner. Et puis le territoire Sud-Ardèche qui affiche, semble-t-il, une volonté, donc à partir d'un label, alors de multiples labels, mais notamment pour les plus récents, d'un label UNESCO, donc sur la grotte Chauvet, élargir la réflexion à ce qui se construit en tant que territoire fondé sur la mise en évidence de biens, de lieux, de sites archéologiques. Donc, en fait, deux territoires au total pour l'Ardèche. Un plutôt, avec notre lecture que j'évoquais tout à l'heure, éco-centré, donc le géoparc, l'autre plutôt archéo-centré. Alors, comment tout ça va réussir à prendre forme, peut-être dans une destination qui se veut renouvelée et plus large? Alors, je vais terminer avec un certain nombre de... Ah non, j'ai... Ah oui, bien sûr, les sites palafitiques, il faut que j'en parle, parce que c'est des sites un peu mystérieux, puisqu'ils sont largement invisibles. Donc, il s'agit de sites lacustres qui... alors, on en recense enfin un grand nombre, mais 111 d'entre eux sont repérés donc dans le bien sériel UNESCO, donc qui a été inscrit en 2011. Vous avez une carte où on les sont localisés. Donc c'est vraiment un bien sériel donc très intéressant. Vous voyez qu'on le trouve présent dans l'arc alpin, sur les bords du l'arc sur les franges de cet arc alpin, donc en milieu lacustre où des sociétés anciennes se sont localisées, et on a quelques traces, mais il se trouve qu'elles sont au fond des lacs, donc mal connues, inégalement valorisées, alors qu'en Suisse, c'est quelque chose qui semble être parfaitement intégré dans la représentation identitaire suisse, un peu que sont nos Gaulois pour nous finalement. C'est beaucoup moins le cas en France, et donc on va avoir l'occasion là d'interroger de manière assez particulière finalement un certain contenu alpin à partir donc des comparaisons qui vont d'abord s'engager entre la France et la Suisse, avec un éclairage particulier aussi, parce que l'objet appelle ça, c'est un éclairage du point de vue des perceptions que peuvent en avoir les visiteurs, du point de vue donc des modalités de mise en valeur de ça, puisque en tant qu'objet non visible, on peut effectivement comprendre que la labellisation va devoir faire avec un contenu qui n'est pas facile. Je termine donc avec quelques pistes de réflexion. Je vais peut-être pas toutes les évoquer, vous les avez sous les yeux. Je voulais surtout insister en fait de manière plus générale, ce que pourrait nous amener à éclairer cette réflexion sur les labels territoriaux. C'est une autre manière d'éclairer l'innovation, Certainement, en tant que contenu institutionnel, en tant que contenu social aussi, puisque y a des choses qui se mobilisent par là, qui ont à voir avec les sociétés, leurs identités, leurs objets de référence, et ce qu'elles inventent avec parfois pour amener du contenu dans ces labels. C'est une autre manière aussi d'interroger le contenu montagne. Je l'ai dit en introduction, mais vous avez bien conscience, à partir des exemples que j'ai cités, qu'on n'a pas pris les objets les plus emblématiques de ce qui fait montagne quand on est à Grenoble ou dans les Alpes du Nord en particulier. On a des territoires effectivement qui peut-être pourraient porter un autre regard sur ce qui est impliqué dans montagne. Alors on a bien conscience aussi, ça a été une remarque qui nous a été faite au démarrage de ce programme, donc on l'a bien entendu, Christine, qu'il va falloir s'offrir des occasions de comparaison, élargir nos terrains. On a donc déjà quelques idées. D'abord parce que dans le groupe, on va bénéficier de la présence de Marie Wari, par exemple, qui travaille sur l'atlas marocain. On bénéficie de la présence de Laine Chanteloup, qui travaille sur le Canada, qui va aussi nous amener d'autres points de vue. Et puis, on aimerait bien engager des comparaisons, alors avec la Suisse, je viens de l'évoquer, mais aussi peut-être des territoires qui sont en recherche de labellisation. Pourquoi pas, Eldon, ici, très proche, qui travaille à un label parc. L'espace Mont-Blanc, qui est une vraie énigme. Pourquoi ce territoire-là n'a pas encore réussi à trouver une manière de s'expliciter par là. Et ça peut être un bel exemple de ce qui peut aussi ne pas être fait et pourquoi. Et voilà, merci de votre attention.